Bonjour et bienvenue, 10h TU midi, ici à Paris, le journal sur RFI.
Gilles Moreau.
Dans l'actualité, les 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale. À Paris, la traditionnelle cérémonie du souvenir se déroule au pied de l'Arc de Triomphe. Et à Moscou, c'est demain que s'élancera la grande parade militaire en présence du président russe et de son homologue chinois. Dans le même temps, sur le front ukrainien, la trêve temporaire décrétée par Vladimir Poutine est entrée en vigueur. Elle ne serait que partiellement respectée. Dans ce journal également, la levée des sanctions économiques réclamées par le numéro 1 syrien. La place du partage de l'eau dans les relations entre l'Inde et le Pakistan. Et en football, la joie des supporters du Paris Saint-Germain, leur équipe est en finale de la Ligue des Champions. Mais pour commencer ce journal, direction le Vatican où le conclave est réuni depuis hier pour élire le successeur de François. Nicolas Rocca, vous êtes en direct sur place. Comme hier, Nicolas, c'est encore de la fumée noire qu'on vient de voir s'échapper.
Oui, Gilles, et la foule était moins dense qu'hier soir, ce matin, et l'attente un peu plus courte. C'était il y a quelques minutes seulement que la fumée est sortie noire de la petite cheminée installée au-dessus de la chapelle Sixtine où sont réunis les 133 cardinaux électeurs. Les personnes venues, place Saint-Pierre, ont tout de même applaudi malgré une certaine déception. Cela signifie donc qu'aucun des deux votes de la matinée n'a permis d'atteindre la majorité des deux tiers. Il faut réunir les votes de 89 cardinaux pour que l'un d'entre eux soit élu pape. Cette journée, on le sait, est cruciale. Les deux derniers conclaves ont duré deux jours. Cet après-midi encore, il y aura un premier vote. Et puis, s'il est concluant, il y aura une fumée blanche. Et puis, un deuxième vote. Si aucun des deux votes n'a permis d'élire un nouveau pape, alors la fumée sortira noire en début de soirée, comme hier soir, en espérant ici, bien sûr, que l'attente ne se prolonge pas trop longtemps.
Nicolas Rocca en direct du Vatican. Merci à vous. 8 mai 1945, 8 mai 2025, ce sont les 80 ans de la capitulation de l'Allemagne nazie. C'est jour férié en France, à Paris. Emmanuel Macron préside ce matin la cérémonie au pied de l'Arc de Triomphe, cérémonie d'hommage aux combattants tués lors de la Seconde Guerre mondiale. Mais le 8 mai n'est pas la date choisie dans tous les pays d'Europe pour commémorer la fin de la guerre. Explication Lila Olkinuora.
Le 8 mai 1945, à 23h01, les Allemands signent leur capitulation à Berlin. Autour de la table, les Russes, les Américains, les Britanniques et les Français, c'est la fin de la guerre en Europe. Mais 23h01 à Berlin, c'est 1h01 à Moscou. C'est donc pour ça que les Russes fêtent ce qu'ils appellent le jour de la victoire le 9 mai. Ailleurs en Europe, parce que les territoires n'ont pas tous été libérés au même moment, les dates de célébration varient. Aux Pays-Bas, par exemple, les commémorations s'étendent du 4 au 5 mai, d'abord pour la journée nationale du souvenir, puis le lendemain pour fêter la libération du pays. En Italie, la fête de la libération célèbre à la fois la fin de l'occupation nazie et la résistance contre le régime fasciste de Mussolini. Tout ça le 25 avril en souvenir de l'offensive de la résistance qui a eu lieu en 1945 dans plusieurs villes du Nord. Enfin, en Belgique, pour des raisons budgétaires, le 8 mai n'est plus férié depuis 50 ans. Une question qui soulève encore le débat. Pour la gauche belge, le réinstaurer serait un signal fort contre l'extrême droite.
En Russie, c'est demain, le 9 mai, qu'aura lieu sur la place rouge de Moscou la grande parade militaire. Des soldats chinois prendront part au défilé sous les yeux de Vladimir Poutine et de son homologue chinois Xi Jinping. Dans le même temps est entrée en vigueur la trêve temporaire de trois jours décrétée par le maître du Kremlin. L'Ukraine accuse la Russie d'avoir lancé des attaques nocturnes aux bombes aériennes guidées. Toutefois, l'armée de l'air ukrainienne a noté dans un communiqué l'absence depuis minuit de tirs de missiles et de drones de combat russes. Les tensions sont quelque peu redescendues d'un cran entre l'Inde et le Pakistan. Après une longue journée de bombardements, les armées des deux pays ont à nouveau échangé quelques tirs la nuit dernière à leurs frontières. Leur confrontation cette semaine restera comme la plus violente des deux dernières décennies. Les bombardements ont causé la mort d'au moins 43 personnes dans les deux camps, dont de nombreux civils. Hier soir, le premier ministre pakistanais a promis de venger tous les martyrs, laissant présager d'autres opérations. Les missiles tirés par l'Inde ont notamment touché un barrage hydroélectrique, le barrage de Neloum-Jeloum qui sert à produire de l'électricité au Cachemire, un édifice stratégique pour le Pakistan. Dans le même temps, New Delhi a suspendu sa participation au traité de partage des eaux de l'Indus, ce fleuve qui irrigue 65% du territoire pakistanais, notamment les vastes plaines fertiles du Pendjab. Ce traité, désormais fragilisé, constitue l'une des rares réussites diplomatiques entre les deux pays. Anne Verdaguer a recueilli le commentaire d'un spécialiste, Alexandre Tête, chercheur à la Fondation Fondation pour la Recherche Stratégique.
Ça a déjà été l'objet de tensions, mais en fait, qui ont toutes été canalisées parce qu'il y avait un traité qui était ultra technique et qui, en fait, créait un partage fonctionnel. Et c'est vrai que c'était l'exemple du monde où la coopération prévalait même en contexte de guerre. Il y avait un contexte de fragilisation du traité quand même depuis une bonne dizaine d'années. Côté indien, parce qu'en fait, l'Indus, le bras principal, revient déjà au Pakistan. Lorsqu'on fait le total des volumes, vous avez beaucoup plus de populations pakistanaises qui dépendent de l'Indus, qui est vraiment le seul gros fleuve qui traverse le pays. Hein. Voilà, donc l'Inde, elle dit que c'est beaucoup trop, parce que très honnêtement, le Pakistan, il est passé de 35 millions d'habitants en 1950 à 200 millions aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il est vraiment au-dessus de ses ressources, que ce soit en eau ou dans tous les domaines. Et du coup, effectivement, il est d'autant plus fragile qu'il a besoin de l'hydroélectricité pour faire face déjà à des coupures qui durent parfois plusieurs heures par jour.
Alexandre Tête avec Anne Verdaguer. À Ramallah, en Cisjordanie occupée, l'autorité palestinienne condamne une violation des droits de l'enfant. Des écoles tenues par l'ONU ont été brutalement fermées par des forces de la police israélienne. En ce qui concerne Gaza, la bande de Gaza, territoire plongé dans une catastrophe humanitaire, les secours palestiniens font savoir qu'ils sont au bord de la paralysie. L'acheminement de l'aide est empêché par Israël depuis plus de deux mois. 75% des véhicules de secours sont immobilisés faute de carburant. En visite hier à Paris, le numéro 1 syrien Ahmed al-Sharaa a plaidé pour une levée des sanctions économiques encore en place malgré la chute du régime de Bachar al-Assad. Les ONG présentes en Syrie réclament cette levée, elles aussi. Mégo Terzian est le directeur exécutif de MEAD, organisation qui gère une quarantaine de centres de soins en Syrie.
C'est la seule chose importante. Si on conteste pas l'arrivée de ce président en France, c'est parce qu'on espère qu'il pourra convaincre à travers le président français la communauté internationale de lever les sanctions. On doit envoyer des fonds pour continuer le paiement des salaires, l'achat des médicaments, etc. C'est vraiment très dur à envoyer les fonds. Des fois, on met des mois pour envoyer un mois de fonctionnement d'un hôpital, quoi. Ce qui n'est pas normal. Pour nous, c'est très important, la levée des sanctions. L'accès par la mer au port pour acheminer des médicaments. Les passages frontières aussi, c'est toujours compliqué. Par exemple, par la Turquie ou par la Jordanie, les passages frontières avec du personnel ou avec des médicaments ou matériel médical. Donc pour nous, c'est vraiment essentiel la levée des sanctions pour les humanitaires, mais aussi pour le pays parce qu'il faut tout reconstruire. Sans lever des sanctions, on peut pas espérer que la société civile va pouvoir relancer la reconstruction de leur pays.
Mégo Terzian avec Vincent Souriot. Enfin en football, l'Inter Milan contre le Paris Saint-Germain le 31 mai à Munich. C'est l'affiche cette année de la finale de la Ligue des Champions, la plus prestigieuse des Coupes d'Europe. Vainqueur hier soir d'Arsenal au Parc des Princes 2-1, le PSG est bien au rendez-vous de la finale. 5 ans après celle perdue contre le Bayern Munich. Hier soir, dès le coup de sifflet final, une joie immense s'est répandue dans les rues de la capitale. Reportage au milieu des supporters de Baptiste Leduc.
On est des enfants du Paris Saint-Germain. On attend ça depuis des années. En fait, là, ce qui se passe, c'est toute la frustration qu'on a accumulée pendant des années qu'on est en train de relâcher. Et c'est notre seule fierté, c'est le PSG. Ce soir, Paris va brûler, mais dans le bon sens. On va fêter tout en gardant le respect, bien évidemment.
Merci Hakimi.
Merci Hakimi.
Merci Hakimi.
Merci Paris, on est en finale. Ouais, merci Paris.
Paris en finale, monsieur. Paris en finale.
Mais est-ce que Paris va gagner la finale?
Mais bien sûr que oui, elle va la gagner, monsieur. Bien sûr que oui, il n'y a pas de doute à avoir là-dessus.
Paris gagne la finale.
Paris gagnera la finale, monsieur.
Et on va prendre la coupe cette année, c'est pour nous les gars.
On a pris toutes les équipes de Première Ligue.
On a éliminé la Première Ligue.
Un rendez-vous en finale les gars. On va la ramener à Paris. Voilà.
Allez Paris.
Reportage dans les rues de Paris, signé Baptiste Leduc. Je rappelle la principale information de ce journal. De la fumée noire s'est échappée tout à l'heure de la cheminée de la chapelle Sixtine au deuxième jour du conclave, signe que le successeur du pape François n'est pas encore connu. Très bonne journée sur RFI, à suivre 8 milliards de voisins, l'émission d'Emmanuel Bastide.